Europe Midi. Romain Desarbres.
Midi et demi, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'actualité de la mi-journée sur Europe 1. Emmanuel Macron veut faire pression sur les pays du Maghreb afin qu'ils acceptent de récupérer leurs ressortissants expulsés par la France. Pour cela, le nombre de visas accordés par Paris a été drastiquement réduit. Les informations de Louis Dragnel. Et puis on sera avec Mustapha Tossa, journaliste franco-marocain. Des poubelles non ramassées à Marseille. Les éboueurs sont en grève car ils ne veulent pas travailler plus de 3h à 3h30 par jour durant 6 jours, soit une vingtaine d'heures par semaine. On ira sur place à Marseille et puis j'appellerai le député des Bouches-du-Rhône, Guy Tessier, qui nous expliquera pourquoi les éboueurs marseillais ne travaillent que 20 heures par semaine et non 35. Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews à 18h dans Punchline avec Laurence Ferrari, l'ancien président de la République, suit ce qui se passe évidemment chez les Républicains. On verra avec Alexandre Chauveau que la date du 4 décembre pour déterminer le candidat de la droite à la présidentielle, date critiquée car tardive, ne devrait pas, je dis bien ne devrait pas être modifiée, c'est ce qui a été annoncé ce matin. Et puis Neymar, Mbappé et Messi au Parc des Princes ce soir en Ligue des Champions face à Manchester City. Est-ce qu'ils seront tous les trois en même temps sur le terrain? On verra ça avec Cyril de la Morinerie.
Europe 1.
C'est donc une information capitale révélée par Europe 1 ce matin. La France a décidé de diviser par deux le nombre de ses visas accordés aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, c'est vous qui révélez cette information. Il s'agit de faire pression sur ces pays qui ne jouent pas toujours le jeu. Ils traînent des pieds ces pays pour récupérer leurs ressortissants que la France veut expulser. Hein.
Absolument. D'ailleurs, on peut dire qu'ils ne jouent pas du tout le jeu, en fait. Tout est parti du refus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de reconnaître les ressortissants que la France veut expulser. Ces chiffres, regardez-les. Prenons par exemple le cas de l'Algérie. Entre janvier et juillet 2021, la justice française a ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire des expulsions. Et vous savez, Romain, combien d'Algériens sont vraiment repartis chez eux? Eh bien, seulement 22. 22 sur 7731, ça veut dire à peine plus de 0,2%. La raison, il y en a une, c'est l'Algérie qui refuse de délivrer ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, documents sans lesquels une expulsion est impossible. Et je peux vous dire que ce chiffre, 0,2% d'exécution des expulsions avec l'Algérie, a fait bondir Emmanuel Macron à plusieurs conseils de défense cet été. Après avoir tenté plusieurs approches, le dialogue, le conditionnement des aides au développement, les menaces, eh bien l'exécutif est passé aux sanctions. Ça s'est décidé il y a tout juste un mois, secrètement, à bas bruit. Emmanuel Macron a décidé de diviser par deux le nombre de visas délivrés pour l'Algérie et le Maroc et une réduction de 30% pour la Tunisie. C'est inédit.
Louis, une question un peu plus politique. Emmanuel Macron est en train de faire du Éric Zemmour?
Alors, ça pourrait bien y ressembler, mais je ne vous apprends rien. On est à 6 mois de l'élection présidentielle. Du coup, je réponds partiellement à votre question. Et vous le savez aussi, on s'en doute, Éric Zemmour connaît bien le sujet. Pas sûr qu'il aurait attendu 4 ans pour prendre ses décisions. En fait, Emmanuel Macron sait qu'il n'a plus beaucoup de temps avant la présidentielle. Il veut corriger son bilan migratoire. Il n'a pas d'autre choix que de prendre des décisions radicales. Rappelons pour terminer que le chef de l'État s'était engagé en 2019, dans un entretien à Valeurs Actuelles, à exécuter 100% des expulsions. Autant dire que pour le moment, et avec le Covid qui n'a rien arrangé, on est encore loin du compte.
Louis Dragnel, merci Louis. Mustapha Tossa, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous êtes journaliste franco-marocain. Déjà, comment les pays du Maghreb, et notamment le Maroc, réagissent-ils?
Alors jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de réaction officielle de la part des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Leur ministère des Affaires étrangères n'ont pas encore commenté cette décision. Mais moi, je les imagine sous le choc parce qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à une action aussi spectaculaire, aussi drastique, comme l'a dit ce matin Gabriel Attal, parce que c'est une question qui surprend de la part des Français de recourir à cette arme de sanctions des visas pour adresser des messages. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est l'importance des visas pour les Maghrébins. Chaque fois qu'il y avait un responsable français qui visitait une des capitales du Maghreb, la demande d'augmenter le volume de visas était une demande permanente. Et donc le fait de recourir à cette sanction, ça va avoir beaucoup d'effets. Et déjà les réseaux sociaux au Maghreb s'en sont emparés et il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Mmh. Mais sur le plan politique, il n'y a pas encore eu de position officielle.
Parce que c'est vrai que de nombreux ministres de l'Intérieur ont fait le voyage au Maroc, en Tunisie, en Algérie pour demander à ces capitales, à ces pays de récupérer leurs ressortissants expulsés par la France. Et avec un succès, il faut le dire, très limité. Donc, ces pays utilisent le laissez-passer consulaire comme moyen de pression sur la France. C'est-à-dire qu'ils n'en délivrent pas et donc Paris ne peut pas renvoyer. Là, vous nous dites que la France tape dans le mille, en clair, hein.
Elle tape dans le symbolique et dans ce qui lie ces pays avec la France, notamment le voyage, que ce soit d'agrément, que ce soit d'affaires ou d'études. Donc réduire de moins 50% les visas, c'est quelque chose d'inédit. Mais le problème est de savoir est-ce que cette décision va pousser ces pays à changer de comportement par rapport à la réception de leurs citoyens. Ou alors, est-ce qu'elle ne va pas non plus sanctionner l'importance de la relation entre la France et le Maghreb? C'est vrai que les Maghrébins, quand ils viennent en France pour le tourisme, pour les études ou pour les business, est-ce que tous ces facteurs-là ne vont pas être atteints par cette décision française de diminuer de manière aussi drastique le volume des visas?
Merci beaucoup Mustapha Tofsa, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, journaliste franco-marocain. La crise des sous-marins australiens à présent. Et cette prise de parole du président de la République à l'occasion ce matin de l'annonce à l'Élysée de la vente de 3 frégates à la Grèce. Jamais Emmanuel Macron n'avait parlé en public de cette crise des sous-marins. Il demande déjà aux Européens qu'ils en finissent avec la naïveté vis-à-vis des États-Unis. Le président de la République qui ajoute que la France reste, malgré ce qu'on va appeler un revers australien, reste une grande puissance. Écoutez.
Le choix australien ne change en rien la stratégie indo-pacifique de la France. La France est une puissance indo-pacifique indépendamment de tout contrat, puisque nous avons plus d'un million de nos compatriotes qui vivent dans cette région et que nous avons plus de 8000 soldats qui y sont déployés. Avec par ailleurs, de nombreuses opérations conjointes menées avec plusieurs partenaires dans la région. Donc le choix australien, dont d'ailleurs toutes les conséquences sont encore à déterminer dans les semaines qui viennent, n'a pas d'impact sur la stratégie indo-pacifique française.
Voilà, prise de parole donc du président de la République ce matin. C'était important que vous l'entendiez. On part à Marseille à présent. Marseille et ses éboueurs en grève. Ils refusent d'augmenter leur temps de travail, qui n'est pourtant que de 3h à 3h30 par jour pendant 6 jours. Avant d'écouter le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Guy Tessier, Stéphane Burgat, correspondant Europe 1 à Marseille. Bonjour Stéphane.
Oui, on peut le voir déjà dans certaines rues, hein, près du Vieux-Port ou encore autour de la gare Saint-Charles à Marseille, les conteneurs débordent par endroits, ce qui énerve les habitants comme Philippe.
C'est dégradant quand même pour la ville. Hein. Avec la chaleur, avec le nombre d'habitants qu'il y a partout et tout, ça amène des rats, ça amène des nuisibles. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça, quoi. Il faut trouver des solutions.
Alors, ce qui met le feu aux poudres cette fois-ci, c'est une loi applicable sur l'ensemble du territoire au 1er janvier prochain pour un passage du temps de travail aux 35 heures généralisé dans la fonction publique, sauf quand des critères de pénibilité s'appliquent. Et c'est là-dessus que portent les négociations, selon le secrétaire général de FO des territoriaux, Patrick Ruy.
Marseille, on n'est pas à Annecy, on n'est pas à Evian. Les conditions de travail n'ont strictement rien à voir. Vous avez affaire à une partie de la population très très difficile. Il suffit de se promener dans les rues de Marseille pour voir dans l'état qu'on les met. Vous vous faites caillasser. Les agressions sont monnaie courante, donc je regrette, mais Marseille ne peut pas être comparée à toutes les villes de France.
Et selon ce syndicaliste, le mouvement social est très suivi, avec au moins 90% de grévistes dans les dépôts de la métropole entre Aix, Marseille ou encore Martigues.
On est en direct avec Guy Tessier. Bonjour Guy Tessier.
Oui, bonjour.
Député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Pourquoi est-ce que les éboueurs ne travaillent pas plus à Marseille ?
Ben parce que je pense qu'au fil des années, les syndicats, et notamment le syndicat majoritaire dans la ville de Marseille, a fait grimper au cocotier.
C'est-à-dire, c'est la CGT ?
Se sont succédés.
C'est la CGT, le syndicat majoritaire dont vous parlez ?
Non, c'est Force ouvrière.
C'est FO.
Et si vous voulez, ça date de l'époque de Gaston Defferre. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur la ville de Marseille. Je vous signale qu'il s'agit en fait de la métropole d'Aix-Marseille. C'est donc 91 communes qui sont touchées par cette grève. Et donc, en fait, de quoi s'agit-il? Votre reporter vient de le dire, il s'agit d'appliquer tout simplement une loi, qui est une loi de 2019, et qui ordonne aux collectivités locales d'appliquer la loi à partir du 1er juillet 2022. Donc, en fait, les manifestants, les fonctionnaires qui sont actuellement en train de manifester devraient aller plutôt sous les fenêtres de la préfecture que devant le siège de la métropole qui ne fait qu'appliquer la loi. Et la loi, c'est la loi, et elle est la même pour tous.
Et elle est la même pour tous, que ce soit à Marseille ou à Paris d'ailleurs, où il y a les mêmes sujets de temps de travail. Je me suis laissé dire que certains, en réalité, étaient éboueurs et avaient un autre travail. C'est vrai ?
Ah ben, bien sûr que c'est vrai, mais c'est un secret de polichinelle. Je veux dire, à Marseille, tout le monde sait ça. Alors, c'est pas forcément interdit. Il faut savoir que c'est pas forcément interdit dans la fonction publique. Hein. Mais donc, ça peut entraîner pour certains une course à l'occasion du ramassage des ordures ménagères pour aller plus vite se rendre sur le lieu de travail.
Voilà, et on peut entendre qu'on fait très vite, donc pas forcément toujours très bien. Merci beaucoup Guy Tessier, merci d'avoir été en direct avec nous, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. On va parler de nos factures de gaz et d'électricité. Le gaz, plus 12,6% à partir de vendredi prochain, ça on vous l'a dit, ça va poser un sérieux problème de pouvoir d'achat à des millions de ménages modestes en France. Maud Descamps, bonjour Maud.
Bonjour.
Vous nous dites que le gouvernement planche sur des solutions pour limiter l'impact de ces hausses. De nouveaux gestes pourraient être faits dans les prochains jours.
Hein. Oui, tout à fait. Le gouvernement étudie les différentes solutions pour adoucir la flambée des prix de l'énergie. Plus 12,6% pour le gaz, vous venez de le dire. Il faut aussi s'attendre à une hausse d'environ 10% pour l'électricité en début d'année prochaine. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a été très clair ce matin sur Europe 1. Il y aura de nouveaux gestes.
Évidemment qu'on continue à travailler, à réfléchir à des mesures supplémentaires pour alléger la facture des Français. En plus des mesures qu'on a prises sur le pouvoir d'achat, en augmentant la prime d'activité, en défiscalisant les heures supplémentaires, en faisant des exonérations de charges, en baissant l'impôt sur le revenu et en supprimant la taxe d'habitation, en plus du chèque énergie qu'on a augmenté de 100 euros pour 6 millions de ménages, on réfléchit évidemment à d'autres mesures, notamment s'agissant du prix du gaz.
Alors vous l'avez entendu, hein, pas de détails hein, pour le moment sur le type de coup de pouce. Il y a plusieurs leviers possibles. Une nouvelle rallonge du chèque énergie, mais aussi une baisse de la fiscalité ou encore demander aux fournisseurs de faire un effort sur leur marge. Ces deux derniers leviers ont d'ailleurs déjà été utilisés dans le passé pour le carburant. C'était en 2012. Pierre Moscovici, qui était alors ministre de l'économie, avait baissé les taxes sur le carburant de 3 centimes et il avait demandé aux fournisseurs d'en faire autant. Mais pour le moment, en tout cas, que ce soit du côté de Bercy ou du ministère de la Transition écologique, on refuse d'être plus précis.
Merci beaucoup Maud pour toutes ces informations. 12h42, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va vous parler de changements à l'école primaire concernant le protocole sanitaire. On va parler de Sanofi qui a annoncé qu'il arrêtait les essais sur son vaccin anti-Covid à ARN messager. Tiens, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Ça, je poserai la question à Emmanuel Dutheil. Et puis, on va parler du processus de sélection du candidat de la droite à la présidentielle. Il y a de nouvelles informations. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h45, du changement à l'école primaire. Écoutez bien si vous avez des enfants scolarisés. En cas de découverte d'un élève malade du Covid, on ne ferme plus toute la classe. Ça change beaucoup, hein. C'est une sacrée nouveauté. Marion Gauthier, expliquez-nous ce nouveau protocole sanitaire.
Alors, c'est une expérimentation. Lorsqu'un cas de Covid-19 est déclaré dans une classe, les élèves ne sont plus tous renvoyés chez eux, mais ils sont testés. Seuls les positifs se confinent. On espère que ça commence vite, glisse-t-on au ministère de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin une mise en place probable lundi dans une dizaine de départements. Des discussions sont encore en cours avec le ministère de la Santé pour déterminer lesquels. C'est une bonne nouvelle, réagit Carla Dugo, coprésidente de la FCPE, l'association de parents d'élèves, réclamait cette mesure depuis longtemps.
Les parents veulent aujourd'hui que la scolarité de leurs enfants reprenne quelque part un chemin le plus normal possible et surtout que leurs enfants aillent bien parce qu'ils ont subi deux années difficiles et les enfants aujourd'hui ont besoin de retrouver leurs enseignants, leurs écoles. Et donc les parents seront d'accord. Après, c'est quel est le dispositif?
Alors a priori, ce seront des professionnels de santé qui iront dans les écoles avec des écouvillons et c'est tout l'enjeu de l'expérience. Les ministères ont besoin de savoir si les laboratoires sont capables de faire cet effort et de donner les résultats des tests rapidement, sans trop ralentir le rythme scolaire des enfants.
Merci beaucoup Marion Gauthier. On l'a appris ce matin et je voulais qu'on y revienne dans Europe Midi. Le français Sanofi a annoncé qu'il arrêtait les essais sur son vaccin anti-Covid à ARN messager. Emmanuel Duteil, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous étiez à la conférence de presse de Sanofi ce matin. Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas forcément grave. Hein.
Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi quand même. Hein. Sanofi a raté le coche il y a des années sur l'ARN messager. Il ne jouait donc pas dans la même cour que Pfizer ou Moderna. Il a malgré tout voulu se lancer pour prouver une chose, qu'il n'était pas totalement à côté de la plaque. Et c'est ce qu'il a prouvé ce matin. Son vaccin ARN présente des résultats très intéressants. Sanofi maîtrise donc la technologie. Mais s'il devait continuer les essais, son vaccin arriverait trop tard sur le marché. Donc pour Thomas Triomphe, qui est le vice-président de Sanofi Pasteur, l'idée maintenant, c'est d'être au rendez-vous des prochaines pathologies.
Nous avons pivoté en responsabilité nos efforts de R&D. Aujourd'hui, on a déjà des résultats positifs sur notre premier essai d'ARN messager. Et donc, nous accélérons maintenant l'innovation vers les nouvelles maladies. Et au-delà de la vaccination, on pourra aussi utiliser cette plateforme d'ARN messager vers d'autres pathologies, l'oncologie ou l'immuno-oncologie.
Donc, vous l'entendez, Sanofi va continuer à investir sur l'ARN messager, dans son centre français notamment. Et surtout, le groupe mise maintenant tout sur son autre vaccin qui est, lui, toujours attendu d'ici à la fin de l'année. Sanofi a même présenté, je l'ai vu ce matin, le petit flacon qui attend d'être certifié. Et là, le groupe se dit certain de l'utilité de ce vaccin. Pourquoi donc ? Parce que notamment, il mise sur les campagnes de rappel.
Emmanuel Duteil, merci beaucoup Emmanuel. Événement politique, ce soir, notez-le sur Europe 1. Laurence Ferrari recevra Nicolas Sarkozy à 18h dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. L'ancien président de la République qui suit évidemment ce qui se passe chez les Républicains. Et justement, Alexandre Chauveau, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous étiez ce matin au siège des Républicains. Certains s'étonnent, voire critiquent, la date tardive du 4 décembre pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle.
Oui, parce que nombreux sont ceux en interne qui trouvent qu'elle est trop éloignée et que les 2 mois qui vont s'écouler d'ici là seront autant de temps où la droite ne pourra pas réellement faire campagne. Faux débat, répond Christian Jacob, le président des Républicains.
Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a recevé le soutien du parti le 29 novembre 2006, François Fillon le 27 novembre 2016. Donc on est exactement à 8 jours près dans les mêmes dates.
Christian Jacob se dit également confiant sur l'éventualité que Xavier Bertrand annonce sa participation au Congrès. Il devrait le faire cette semaine, s'avance même le patron du parti, qui ne veut en revanche pas entendre parler d'Éric Zemmour comme potentiel candidat chez les Républicains.
Au fur et à mesure qu'il s'exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui, parce que bon, il a des propos qui deviennent inquiétants. Donc de toute façon, il n'y a pas de débat, on l'a toujours dit. Mais c'est comme si vous me posiez la question de savoir si un socialiste veut être candidat chez nous. Non, parce qu'on n'est pas sur la même ligne.
Il ne devrait donc y avoir que 5 candidats à droite pour un seul fauteuil. Le nom du vainqueur sera connu au plus tard, donc le 4 décembre.
Merci beaucoup Alexandre. Et cette réaction d'Éric Zemmour, écoutez bien sur Twitter, réaction pleine d'ironie. « Quelle tristesse !» écrit Éric Zemmour. « Sans avoir rien demandé, je suis exclu de la course qui sert à choisir le Premier ministre de Macron. » Voilà, le message est passé. 12h50, restez bien avec nous. Sur Europe 1, dans Europe Midi, dans quelques instants, un témoignage extrêmement fort, le témoignage de la fille d'une victime des islamistes qui ont commis les attentats du 13 novembre 2015. Et puis on parlera également football avant PSG Manchester City. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h53, le procès des attentats islamistes du 13 novembre 2015. Place aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au témoignage des victimes. Et je vous propose d'écouter Sophie Dias. Elle est la fille de l'unique victime du Stade de France, Manuel Dias. Il est chauffeur de car, portugais, originaire de Reims, d'où il avait amené des supporters. Et sa fille nous raconte sa soirée. C'est au micro de Marion Dubreuil.
Je sais que mon père est au Stade de France ce soir-là, puisqu'il était originaire de Reims et était venu déposer des clients au Stade de France. J'ai appelé l'employeur de mon papa. J'aurais vraiment dit essayer de le chercher aux abords du stade, étant persuadé qu'il était vraiment blessé et qu'il n'avait peut-être pas vu d'ambulance. Chaque intervenant que j'avais au bout du fil, notamment la police, me disait « Écoutez, il n'est toujours pas sur la liste. » Du coup, l'espoir fait vivre et je peux vous dire que j'y ai cru jusqu'à la dernière minute. Donc après, vers midi, je reçois l'appel du consulat du Portugal. La dame, très bouleversée, m'explique qu'elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer et que j'avais perdu mon papa. Et souvent, on me dit « mais vous avez perdu votre papa au Stade de France, hein, mais je croyais qu'il n'y avait pas de victime au Stade de France ». Et c'est vrai que c'est très très difficile de devoir quelque part se justifier en rappelant les faits, alors que nous, ça nous a bouleversé notre vie à jamais. C'est mon combat de le rappeler. Il ne faut pas oublier ceux qui sont partis. J'attends absolument rien de ce procès, si ce n'est que ça reste dans l'histoire, parce que pour moi, il y a ce devoir de mémoire qui est très important.
Voilà Sophie Dias qui a donc témoigné au micro de Marion Dubreuil et elle s'exprimera cet après-midi au procès.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
La Ligue des Champions avec vous Cyril Delamorinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour.
PSG Manchester City, c'est ce soir au Parc à 21h sur Canal+. Cyril, est-ce qu'on va voir ce soir Neymar, Messi et Mbappé sur le terrain ensemble, tous les trois? Dites-nous.
Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose. Bah oui. D'abord, on a eu la confirmation ce matin que l'Argentin aux 6 ballons d'or était bien dans le groupe et sauf surprise, Messi devrait être titulaire d'abord parce qu'il semblait dans une forme olympique hier à l'entraînement, je l'ai vu, mais surtout après la polémique liée à son changement en cours de match, souvenez-vous, il y a 10 jours face à Lyon, on voit mal l'entraîneur du PSG demander au légendaire Argentin de s'asseoir sur le banc comme un remplaçant. Lambda, en plus il s'est parfaitement intégré à l'équipe parisienne, a souligné ce matin en exclusivité sur Europe 1 le capitaine du PSG Marquinhos.
Bon, je pense qu'il c'est un grand joueur, un joueur exceptionnel qui on voit chaque jour à l'entraînement, sur tous les matchs aussi. C'est un joueur qui a plein de ressources, c'est un leader aussi. Et voilà, il peut nous apporter beaucoup de choses et nous aider à arriver à nos objectifs cette saison, c'est de gagner des titres.
Voilà, Marquinhos interrogé par le chef des sports d'Europe 1, Jean-François Pérez. Messi sans doute titulaire ce soir, Mbappé et Neymar certainement, mais ce trio de feu doit encore trouver ses marques et devra faire extrêmement attention au collectif très bien huilé qui est exceptionnel. C'est bien évidemment Manchester City entraîné par Pep Guardiola.
Merci beaucoup Cyril, 12h56, le match sera à vivre sur Canal et sur Europe 1 évidemment, le temps.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Le temps avec vous, Anissa Haddadi. Une nouvelle perturbation arrive cet après-midi.
Oui, malheureusement, hein, c'est vrai qu'on a eu une matinée assez lumineuse. Ben, ça y est, la perturbation, elle arrive par l'ouest. Alors cet après-midi, ce sont la Bretagne et la Normandie qui sont les régions les plus concernées par cette nouvelle perturbation, avec des pluies et peut-être même des averses orageuses. On aura des coups de tonnerre sur le Finistère dans l'après-midi. Puis prudence hein, sur les côtes de la Manche, puisqu'on a le vent de sud-ouest qui se renforce cet après-midi et qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Toujours dans l'ouest, mais en Nouvelle-Aquitaine cette fois-ci, donc entre la Gironde et le Limousin et même jusqu'au midi Pyrénées. Là aussi, le ciel est un petit peu plus nuageux, des nuages menaçants. Donc un ciel qui va alterner entre nuages, éclaircies et averses. Partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est bon signe, vous aurez un après-midi au sec avec un temps plutôt lumineux. Même si un léger voile nuageux couvre de nombreuses régions, c'est vrai que les éclaircies seront majoritaires. Alors côté température, même si c'est le retour du soleil, il va faire frais. Cet après-midi, les températures sont en baisse. 17 degrés à Saint-Brieuc, 18 à Saint-Étienne et Cherbourg, 19 à Lille et Limoges, 20 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 24 à Montpellier et 27 la maximale pour Marseille.
Merci Anissa, 12h57. On se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1. À demain.